Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Cosmo Drama, c'est dans les salles de cinéma. Ce mercredi, c'est le coup de cœur de la séance live. Et pour nous en parler, Philippe Fernandez, le réalisateur, est avec nous. Et il est venu accompagné d'un de ses acteurs qui est enfin arrivé, un acteur qu'on aime beaucoup sur Séance Radio et dans la séance live. On l'a aimé dans Vendeur dernièrement de Sylvain Descloux ou encore dans La French que j'ai mille fois adoré de Cédric Jiménez. Il a reçu en 2006 le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour Indigène de Rachid Bouchareb. Et je veux bien sûr parler de Bernard Blancan qui est à nouveau, qui est avec nous maintenant. Bonjour Bernard.
Et bonjour.
Et bienvenue.
Désolé pour le retard.
Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct, ça, tant mieux, c'est la vie, c'est l'univers.
C'est ça.
C'est à cause de l'univers, il a décidé que vous arriveriez un petit peu en retard, du coup ça a permis à Philippe de nous présenter un petit peu...
L'élasticité du temps, souvent Bernard on en a parlé dans plusieurs films déjà.
Oui, ouais, absolument.
Vous vous connaissez depuis longtemps.
Oula.
Oui.
Alors, comment vous vous êtes connus?
Eh ben, on s'est connus. Moi, je suis allé à l'avant-première du court-métrage d'un ami commun, dans lequel jouait Bernard. Après, au cours du pot qui a suivi, j'ai continué de l'observer. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, comme je vous le disais, mon premier court-métrage en pensant à lui absolument. Donc, il n'y a que lui qui pouvait l'interpréter. Et heureusement, il a accepté. Et donc ça, c'était en 80...
Hier, quoi.
Voilà, c'était il y a un tout petit poil plus de deux décennies.
Qu'est-ce qui vous a plu dans l'univers, déjà à l'époque, de Philippe? Dans l'univers de Philippe
Bah, l'univers.
Oui, l'univers. Sa façon d'écrire, comment il vous emmène dans une histoire, qu'est-ce qui vous a plu, Bernard?
Ouais, c'est ce mélange d'espèces de quêtes philosophiques, en même temps de choses qui me rappellent les univers un petit peu burlesques que j'aime bien, même si c'est pas du burlesque, enfin, ouais, je suis un fan de Jacques Tati, par exemple. Non, c'est cette radicalité aussi, c'est-à-dire qu'il fait pas semblant quand il y traite un sujet. Même si les sujets tournent toujours plus ou moins autour de la même chose, on travaille toujours sur la même chose, je crois. Il fait pas semblant, il y va, il est assez radical. On est loin des choses fades qu'on peut voir ici ou là, qui sont d'ailleurs très agréables parfois, mais là, on sait qu'on part avec Philippe pour une aventure. Et c'est vachement agréable.
Donc la première, c'était ce court-métrage. Mm-hmm. La deuxième, c'était... un autre film?
Oui, deuxième court-métrage, ensuite un moyen-métrage qui s'appelle Connaissance du monde, ça veut dire pas mal de choses, et ça veut dire aussi que j'aime bien emprunter des formes existantes, puisque c'est le nom d'une forme de conférence filmée qui était très à la mode quand j'étais aussi tout petit, qui existe toujours d'ailleurs, et qui met en scène en tout cas des chercheurs de quelque chose ailleurs, des chercheurs
de
l'ailleurs.
Ah oui, ça date depuis longtemps alors.
Ah hein, oui, c'est une thématique.
Il a raison en fait, c'est juste un angle que vous changez.
Là, on était sur l'île de Pâques.
Et celui-là, on l'a fait sur l'île de Pâques.
Ah oui.
Ouais. C'était en 2003, Connaissance du monde, qui a été vu dans les festivals en 2004. Et puis après, donc ces trois courts-métrages, on est passé au long-métrage. Et là, c'est notre deuxième long-métrage. Et tout ça est très long, dans la mesure où on est un peu hors des codes esthétiques et narratifs admis et recherchés et attendus. Il faut un peu plus de temps pour s'installer dans le paysage.
Donc le dernier long-métrage, c'était Le léger tremblement du paysage, ouais, c'est ça, en 2009, ouais, où vous jouiez un pilote.
Oui.
Et là, vous êtes passé au reporter.
C'est ça.
Et alors, vous préférez quel rôle?
Ces personnages sont pas si différents en fait. Il y a toujours chez les personnages de Philippe un petit côté obsessionnel de celui qui cherche à comprendre, qui se pose des questions, et ou par le pilote, lui, il était obsédé par le temps, il mesurait tout, il se chronométrait tout le temps dans tout ce qu'il faisait. Donc ce côté obsessionnel qui appartient certainement aussi à Philippe lui-même, hein, on le retrouve dans tous ces personnages, et c'est ce côté obsessionnel qui fait aussi le burlesque, parce que les personnages burlesques sont en général...
Oui, ils vont à fond.
Oui, c'est ça, et tout le monde va à fond. Et donc moi,
alors on vous a mis des studios formidables quand même, un super décor pour un reporter,
ah ben, ouais.
On va en parler du décor, mais magnifique. la caméra, le banc de montage.
Ah, c'était génial.
Vous avez été jusqu'au détail de tout ça.
Oui, alors, oui, mais bon, malheureusement, je ne suis pas aussi radical que je devrais l'être et que vous avez l'air de le dire. Par exemple, les moniteurs ne sont pas exactement de l'époque voulue et j'ai trouvé les moniteurs qu'il fallait, mais ils étaient trop loin, trop chers, donc j'ai un peu renoncé avant la fabrication du décor, à aller chercher ce qu'il fallait précisément. Donc on là, par exemple, pour le coup, on est dans l'approximation. Néanmoins...
Oui, mais on rentre on est dedans quand même, vous inquiétez pas.
On est dedans quand même, voilà, ça passe quand même. Et néanmoins, sur les deux caméras qu'utilise Bernard dans la fiction, il y en a une qui est vraiment d'époque, c'est la première caméra Sony portable qui est sortie en 1965.
Dans le petit vaisseau spatial, un rêve merveilleux que vous faites et que nous raconterons pas, que les gens en découvriront, c'est ça? C'est à ce moment-là?
Voilà, c'est ça. Et là, c'est dans son studio de reporter, il a cette caméra-là. Et là, j'étais assez fier que ce soit une caméra authentique, vraiment d'époque, et en plus qu'elle marche et elle produit certaines images du film.
Bernard, une question. Quand Philippe vous a proposé Cosmodrama, qu'est-ce qui vous a plu dans ce nouveau film avec lui?
C'est difficile de répondre à une question qui vous a plu parce que en général, les films de Philippe, vu que c'est une amitié,
oui, c'est vrai,
une collaboration
qu'il les écrit aussi depuis longtemps.
De plus de 20 ans, etc. Donc, à chaque fois, je suis surpris parce que...
Mais ça pourrait, pour une fois, ne pas être surpris ou dire, bah non, celui-là, j'en veux pas.
Ah ben non.
Non.
Non, mais en même temps...
Je ne sais pas s'il oserait le dire.
si, j'oserais. Mais bon, même avec diplomatie peut-être, mais je le dirais, je n'ai pas l'habitude. Mais je crois qu'au-delà de ça, au-delà du scénario, je pense que je me reconnais pas mal, en fait, dans les personnages de Philippe. Qui développe. Je crois que quand il pense quand il écrit son personnage et qu'il pense à moi, forcément, il y a une part de moi qui est là-dedans. Donc, comment me refuser moi-même?
Waouh.
c'est un peu plus complexe, en fait, oui, réalité, je dirais. Parce que le fait que. Enfin, à un moment donné, notamment quand on a tourné Une connaissance du monde, à un moment donné, on a été frappé au fur et à mesure que le film se tournait. On est resté 3 semaines à peu près sur l'île de Pâques. Et Bernard devenait de plus en plus cuivré par le soleil qui cognait quand même relativement fort. Et donc, sa ressemblance avec les Moai, donc les grandes sculptures de l'île de Pâques, était de plus en plus frappante, voire effrayante. Et Bernard en a déduit que petit à petit, il devenait le personnage de mes films. Donc je crois aussi que ça joue dans ce sens-là. Parce que je me rappelle très bien qu'une fois, je t'avais entendu être vexé par un réalisateur qui t'avait emprunté un trait de personnalité pour mettre dans un film, et donc je me suis souvent gardé de faire ça. Ça veut dire que quand j'écris pour Bernard, en fait, j'écris pour ce que je sais que Bernard va donner au film. Mais j'évite absolument de m'inspirer de sa vie propre.
D'accord, en revanche, de tirer sur un fil qui lui appartient proprement, mais de t'en faire une fiction.
Voilà, en revanche, sa vie propre va vers les personnages de ce film.
Oui, c'est
alors,
ça.
Est-ce que c'est un hasard ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un beau phénomène.
Je ne sais pas, dans l'univers, il n'y a pas de hasard, ce qui paraît, non? Il n'y a pas de hasard dans l'univers.
Alors, on est partagé là-dessus. Hein.
Ah oui? Il y a plusieurs univers, alors?
Alors, en effet... Donc moi, je me suis mis à jour pour écrire le film. J'avais des connaissances très vagues sur l'univers, tellement vagues que je pense que quand j'ai écrit le film, je ne savais pas trop... distinguer dans le ciel une galaxie d'une étoile. Et il se trouve que personne non plus. J'ai même appris, donc en travaillant sur la question, par exemple, qu'on a découvert que ce qui brillait dans le ciel n'était pas des étoiles, mais des galaxies, autour de 1920, quoi. C'est-à-dire, il y a moins d'un siècle. Donc ça, c'est absolument incroyable. C'est le genre de découverte qui est quand même assez, enfin, c'est le genre d'information, quoi, qui est franchement intéressante à méditer. Alors je sais plus du tout pourquoi je parlais de ça.
Non, parce qu'on disait en fait du coup que finalement votre film, on apprend beaucoup de choses sur justement l'univers, l'astronomie, sur d'énormes...
Le multivers. La multiplicité
voilà. des univers. Voilà.
Bref, j'ai travaillé, et donc je me suis tenu au courant des plus récentes informations données par les scientifiques sur l'univers ou des plus récentes hypothèses.
Ça, c'était avant l'écriture, pendant l'écriture.
Et donc, effectivement, la multiplicité des univers, quand j'ai écrit le film, donc que j'ai commencé à écrire en 2009-2010, n'était consensuelle, commençait à ne plus faire question pour personne. L'unicité de l'univers serait une particularité inexplicable. Et donc, que les scientifiques maintenant ont totalement dépassé, et voilà, on est pour eux, c'est tout à fait évident que l'univers n'est pas seul. Donc, à ce moment-là, on parlait beaucoup du multivers. Ça, c'est pas très récent, d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, on parle du mégavers. Même le terme de multivers est dépassé. Et donc,
trop petit maintenant.
Voilà. Notre pauvre petit univers fait partie d'un beaucoup plus grand ensemble. Et qui est un mégavers. Maintenant, c'est son nom. Et puis, peut-être, pourquoi pas, que ce mégavers appartient à un amas d'univers qui est lui-même parmi plein d'autres amas, plein d'autres mégavers. Voilà. Donc,
Les gigavers.
Les gigavers, exactement. Voilà. Exactement.
Donc, et là, vous avez plongé tous vos comédiens dans ces mégavers.
Ouais. Donc, oui.
Mais ce que je voulais dire quand même par rapport à la question de tout à l'heure, excusez-moi de revenir, de rétro-pédaler
un peu.
Mais on est à la maison, allez-y.
C'est que je partage avec Philippe quand même fondamentalement une curiosité sur l'univers, sur la physique, sur la science, mais aussi avec une interrogation assez spirituelle aussi, et une ouverture sur toutes les possibilités en fait, aussi bien celles que nous propose la science que les ouvertures qu'on peut avoir sur les interprétations de ce qu'on voit et de ce qu'on perçoit.
Exactement, la perception une des choses très importantes en fait, pour qu'on s'entende les uns les autres.
Oui, alors là, bon, on peut en parler puisqu'on est là entre amis. Donc,
bien sûr, on est entre amis.
Bernard a écrit un livre, par exemple, qui s'intitule « Si j'étais guérisseur ». Donc, par exemple, pour donner l'idée de ce genre d'expérience folle qu'il tente avec son propre corps et les propres objets qui l'entourent. Donc, ça montre bien que c'est effectivement quelqu'un aussi qui cherche. Et effectivement, moi, je mets en scène des personnages qui sont dans des recherches à différents niveaux, parfois très amateurs, parfois très spécialisés, comme dans Cosmodrama, mais aussi... Dans les films précédents, des chercheurs qui font avec leurs petits moyens.
Et alors là, vous nous avez mis donc ces 7 astronautes, donc un astronome, la physiologiste, le régisseur, le psychologue, la femme des ondes, ça c'est un petit peu à part, la biologiste et le simiologue. Alors pourquoi vous avez choisi ces métiers-là, justement, pour mettre en...
Alors, il me fallait avec un petit cercle de personnages qui correspondent à peu près au nombre d'astronautes qu'il peut y avoir dans une mission comme ça, intersidérale, intergalactique. Et j'ai essayé de placer des approches diverses du monde qui finalement se complètent et presque font le tour des approches possibles, théoriques ou physiques du monde. Et donc par exemple, il était mais aussi il a fallu que je m'en tienne aussi à un certain niveau de réalisme, c'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'on puisse croire à la mission, que ce soit pas complètement loufoque dès le départ, même si après ça dérape un petit peu dans une certaine loufoquerie, mais elle est contenue et la base de départ est relativement réaliste, on va dire en tout cas sérieuse sur le plan de la situation de départ et sérieuse sur le plan narratif et de sa plausibilité. Et par exemple, il y a un des astronautes qui est magicien, donc on pourrait dire c'est une proche du monde, qui est plus sensible, sauf que non, il y a plusieurs fois dans l'histoire des astronautes qui emmenaient leur instrument de musique, notamment un orgue électrique, comme dans ce film, dans leur mission, parce qu'ils avaient envie de ne pas se séparer de cet instrument, etc.
Voilà, si vous deviez emmener quelque chose dans un vaisseau spatial, vous leur avez posé la question. Lui, il a pris
Non, je ne l'ai pas
orgue.
Fait, mais je l'ai fait pour lui. Voilà, j'ai répondu voilà. Pour lui, en tout cas. J'ai répondu pour lui, en tout cas. Et puis, il y a aussi, bon, 2001, Rencontre du troisième type, hein, où il y a comme ça une communication avec les extraterrestres qui se passe donc à partir de musique. Donc tout ça donnait une plausibilité à la chose, donc ça me permettait de mettre un musicien dans le vaisseau, donc ça me permettait de faire écouter la fabuleuse musique de Sylvain un peu plus donc dans le vaisseau, puisqu'elle est jouée effectivement par un des personnages, on pourrait dire.
Vous saviez dans l'univers quand deux corps tournent côte à côte, c'est qu'ils sont attirés l'un par l'autre, vous êtes côte à côte, vous êtes attirés l'un par l'autre tous les deux.
Comment dire
une attraction très spirituelle.
C'est ça. On demeure dans le spirituel tous les deux.
Vous parliez justement, Bernard, que bon, comme vous vous connaissiez tous les deux depuis longtemps et que Philippe, vous écrivez, et quand vous écrivez, vous pensez directement à vos acteurs, qu'il vous surprend quand même et continue à vous surprendre dans l'écriture.
Ah bah évidemment, bien sûr. Même si les films parlent de choses qui ont un lien comme ça entre elles, puisqu'ils sont toujours basés sur un questionnement, mais chaque fois c'est des univers différents. Et même si je retrouve un personnage qui a des traits communs avec le précédent, comme une espèce de trait d'union comme ça de film en film, c'est quand même à chaque fois différent.
Et est-ce que quand on se connaît comme vous, on va plus vite dans les indications quand on est sur le plateau?
Bah oui.
Bah forcément.
Ou est-ce qu'on s'engueule aussi un peu plus vite? Est-ce qu'il est méchant?
T'as eu un moment de nervosité. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de pas diriger Bernard. Quoi. Il pourra le dire comment il ressent, mais moi, j'ai l'impression de pas le diriger. Les autres, pas tellement non plus. On a travaillé avec les autres, genre deux jours, à des périodes différentes avant le film. Et pour caler, on passait un peu toutes les répliques en vue. Mais comme eux-mêmes savaient très bien que ce qu'ils avaient, ils voyaient très bien que ce qu'ils avaient à faire, ils pouvaient le faire très naturellement, très, très, très facilement. Et que je demande pas non plus aux acteurs, parce que ça m'intéresse pas tellement, d'exprimer des émotions très enfouies en eux, très compliquées, très dramatiques. Et donc, c'est un peu un jeu, quoi. Et là-dedans, voilà, je pense que pour eux, c'est plutôt de l'ordre du plaisir de retrouver le ton que moi j'y ai mis et de voir, enfin j'espère que c'est comme ça, tu nous diras Bernard, de voir que ça correspond à ce qu'ils font comme ça presque naturellement et avec grâce. Bon, je pense que ça se voit et que ça marche. Mais c'est vrai qu'en plus, Bernard, c'est quelqu'un à qui j'ai l'impression de même pas devoir donner d'indication. C'est-à-dire qu'en voyant les choses écrites, je pense, tu nous diras si c'est ça, il sait ce que j'attends et ce que je veux voir.
Oui, absolument. Enfin, je partage la vision de son univers. En tout cas, je comprends, même entre les lignes. Oui,
d'accord, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, on peut retravailler quand on est sur le tournage. On peut dire, tiens, mais cette phrase, ou je comprends pas cette intention, ou non, c'est direct. Tout est bien compris dès les premières lectures.
Et je crois que Philippe aussi fait son casting. La direction d'acteur commence par le casting en vérité. C'est-à-dire que si je choisis Jacky Berroyer, on sait pourquoi. Et il a besoin de faire bosser Jacky Berroyer pendant 3 jours, parce que c'est Jacky Berroyer qu'il veut. Mais en fait, pour chaque personnage, qu'il soit vraiment acteur professionnel ou pas, chacun porte déjà en lui quelque chose du personnage. Donc, au contraire, il ne faut pas trop travailler en vérité. Je pense.
C'est plus facile pour matcher. Mais ouais, du coup, vous faites des lectures quand c'est comme ça ou...
Oui, voilà, c'est ça. Avec Bernard, je crois. Ou si on a dû faire une lecture, mais oui, plutôt pour intégrer une comédienne dans notre histoire, voilà, ça, mais ouais, pas spécifiquement tous les deux. Mmh. Oui, en fait, ça m'a aidé, finalement, la connaissance que tu as de moi, ça a aidé à intégrer une comédienne nouvelle. Sinon, oui, donc à peu près 2 jours de lecture, comme je vous disais, donc un travail assez rapide, voilà, mais ça vient de, comment dire, de ce que je recherche comme type d'interprétation. C'est une interprétation assez distancié justement, où les émotions sont pas marquées mais plutôt représentées. Donc ce qui est plutôt à rechercher, c'est un fil assez ténu entre le premier et le second degré. Tomber dans la parodie, ça m'intéresse pas.
Mais du coup, c'est super, la limite, ouais, difficile, non?
Oui, mais en même temps, c'est ce qu'il applique, c'est la règle qu'on devrait appliquer partout en vérité. C'est-à-dire que moi, je me surprends toujours, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ce métier, mais de faire toujours les mêmes conneries. C'est-à-dire que j'ai une scène comique, je vais la jouer comique. Alors qu'en vérité, si elle est bien écrite de façon comique, moi, il faut que je la joue de la façon la plus sérieuse possible, et elle sera d'autant plus comique. Mais il y a toujours tendance à rajouter une petite espèce de commentaire qui est complètement inutile. Mais de même, j'avais une scène un petit peu pathétique ou avec un peu de pathos, en tout cas que j'avais interprété, et j'avais tendance à la charger d'émotions. Or l'émotion, elle était écrite déjà, elle était dans l'histoire, elle était dans la situation, et au contraire, je crois que je l'ai trouvée en mettant le plus de distance possible en fait par rapport à tout ça. Comment on se défend chacun des émotions qu'on a aussi, d'ailleurs. Il y a des moments où on craque, bon, mais ça, ces moments-là, c'est pas grand-chose, quoi, en vérité. Mais la plupart du temps, on se cache derrière tout ça. Et c'est tellement plus juste. Et donc, avec Philippe, c'est cette essence-là qui est la règle, en fait.
Mmh. Bien dit. Vous ne voulez pas trop
Non, alors justement, parce qu'il parlait tout à l'heure de quel mot tu as employé je m'étais énervé.
Oui, petite nervosité.
Petite nervosité.
Je pourrais avoir l'anecdote, elle est drôle. Je ne sais pas si on pense à la même.
Moi, non, je ne sais pas de quoi tu parles, en vérité.
Mais ce que je sais
en revanche, c'est que contrairement à ce que s'imaginent les gens en voyant le film, où tout est dans des couleurs un petit peu acidulées, des costumes très jolis, tout ça est rond, doux, etc. Mais en fait, on tournait dans un studio en béton. Mais j'ai bien, c'était La Rochelle, c'est sympa La Rochelle, mais enfin, quand on est dans le studio de 8h le matin à 18h le soir, au bout d'un moment, moi, ça me fait craquer. Moi, j'ai besoin d'air. Et j'ai souffert d'un certain nombre de claustrations, en vérité. Je ne supporte pas l'enfermement.
Et en plus, avec un col roulé.
Et en plus, un col roulé.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ouais.
Oui. Il va vous détester après. Peut-être le col roulé dans le prochain film. Alors justement, ce
c'est
fameux tournage.
C'est vrai que les loges étaient sans fenêtre, ça je me rappelle.
Ah
ça,
oui, en plus, c'est ça.
Quand Jacques Iberoui est arrivé, il a tout de suite il a eu un petit mouvement de recul. Les bâtiments étaient neufs, assez magnifiques, au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer avoir un jour pour tourner. Mais malgré tout, effectivement, cette espèce d'enfermement ou des, ouais. Ouais, des fenêtres envers des polices était un peu difficile.
Ça change de l'île de Pâques.
Ah ouais. Carrément, tout à fait.
C'est le contraire.
Tout à fait.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.